Bien, ben je vous remercie de l'invitation à discuter ces deux présentations très riches et qui témoignent de la profusion d'enquêtes qui sont menées dans votre collectif. C'est vraiment très, très impressionnant. On a ici une petite illustration d'un très large ensemble d'enquêtes réalisées. Donc, et ces enquêtes ici, et on peut en lire d'autres dans l'ouvrage, s'inscrivent dans une assez longue expérience de recherche collective sur les rapports de classe localisés, qui portent tout autant sur les transformations politiques et économiques des logements, de l'organisation de l'espace urbain et rural, sur les relations sociales et les modes de vie dans ces espaces, sur les relations entre classes et fractions de classe, et sur les mobilités sociales et géographiques. Donc les présentations ici s'inscrivent dans ces recherches sur les travailleurs du bâtiment qui permettent de saisir à la fois la construction de l'espace et l'offre de logement, les parcours des travailleurs de classe populaire, leur mode de vie, notamment au travail. Alors, ces enquêtes sont proches d'un certain point de vue des manières de faire que l'on peut retrouver dans des enquêtes ethnographiques françaises. On sait qu'on partage certains éléments, notamment les enquêtes par immersion longue, les attentions aux petits déplacements, aux trajectoires sociales, etc. Mais on saisit aussi les particularités de ces enquêtes qui nous intéressent grandement, notamment à l'occasion des échanges que l'on peut avoir entre nos deux équipes de recherche. En particulier, vous mobilisez, on l'a déjà dit tout à l'heure, assez systématiquement les données quantifiées et vous les produisez vous-même à l'occasion, et vous avez un rapport assez critique à la statistique publique vérifiant les conditions de production des données quantifiées. Vous mobilisez des concepts, je pense, à vue plus personnelle, plus internationalisés que l'ethnographie française, relativement centrée sur elle-même. Et d'une certaine manière, vous êtes, je pense, plus ouvert que la tradition française à des traditions de recherche d'autres espaces nationaux. Vous avez aussi une attention très nette aux ruptures, qu'elles soient politiques ou économiques, à ces moments de tension, que ce soit à l'occasion de phénomènes de croissance économique notamment, ou au contraire de récession, qui sont parfois laissés de côté dans la tradition de recherche française. Et vous mettez en dialogue assez systématiquement des traditions de recherche, du moins des domaines ou des sous-domaines de la discipline, parfois distingués ici, notamment la sociologie du travail et de l'emploi, des classes sociales, la sociologie urbaine ou la sociologie des migrations, par exemple. Alors j'ai posé quelques questions à chacun des deux textes. Je suis pas tout à fait spécialiste de sociologie des migrations, donc je suis vraiment désolé. Et donc je vais d'abord commencer par les questions d'accident que je connais un peu mieux. Alors je suis très intéressé voir les enquêtes produites sur cette question. Un objet, les accidents du travail, qui est un peu délaissé depuis une vingtaine d'années par la sociologie du travail française ou la sociologie de la santé française au profit des enquêtes sur les maladies professionnelles pour diverses raisons, mais je pense en partie liées à sa représentation médiatique, dans la mesure où les maladies professionnelles touchent un ensemble plus large du monde social et notamment des classes moyennes supérieures, notamment à l'occasion de tous les débats occasionnés avec les problèmes psychologiques et de suicide des catégories cadres en France pour le moment. Alors je pense qu'il est important pour saisir les classes populaires laborieuses de travailler cette question des accidents dans la mesure où ils y sont régulièrement confrontés et où ces accidents introduisent des ruptures nettes dans des parcours sociaux, du moins quand il s'agit d'accidents graves. Et on peut considérer, notamment dans le secteur de la construction, il me semble que là, c'est un invariant international, que ce secteur est particulièrement accidentogène. Et l'on parle ainsi à l'occasion de ce secteur d'accidents qui ne sont pas si accidentels que ça dans les trajectoires des ouvriers de la construction. Alors j'ai quelques questions, d'abord sur la presse, c'est-à-dire sur la documentation que vous avez mobilisée, du moins celle qui est réunie par les organisations syndicales. Premièrement, je voudrais savoir dans votre corpus s'il s'agit de la presse nationale ou régionale qui évoque les questions d'accidents d'une certaine manière dans quelle rubrique on évoque ces questions d'accidents. C'est pas si simple en France, dans la mesure où il n'y a pas vraiment de rubrique consacrée à la vie des entreprises, si ce n'est que d'un point de vue économique. Donc on peut en parler d'un point de vue économique, mais dans ce cas-là, on parle du coût des accidents plutôt que de leurs répercussions sur les personnes. On peut aussi en parler dans la rubrique sociale, santé, mais plus souvent, on en parle dans les rubriques locales. Et donc ça pose aussi la question de comment en parle-t-on? Est-ce qu'on en parle de manière générale, en travaillant sur ou en questionnant les statistiques nationales ou à partir de cas plus concrets, j'imagine, à l'occasion de drames particulièrement sévères, et en particulier autour des décès au travail. Et enfin, toujours sur la question de la presse, est-ce qu'il y a des journalistes spécialisés sur cette question d'accident du travail? Est-ce qu'il s'agit des gens qui travaillent sur les mouvements sociaux de manière plus générale, les mouvements syndicaux, les grèves ou d'autres types de journalistes spécialisés? Enfin, est-ce qu'on laisse aussi, c'est le cas nettement en France et je pense à la fois dans la presse et en partie dans les sciences sociales, est-ce qu'on laisse de côté les petits accidents, ceux qui entraînent des petites blessures qui n'ont pas nécessairement des conséquences de très longue durée quand ils sont pris individuellement, mais qui, par la répétition et l'accumulation, transforment et dégradent considérablement les corps des ouvriers et des ouvrières essentiels. J'ajouterai d'ailleurs, mais ça c'est pas tout à fait sur une de questions, j'ajouterai que si ça vous intéresse en France, depuis quelques mois, un professeur d'histoire-géographie de la banlieue parisienne recense les accidents dans la presse et les suit sur un fil Twitter et propose en gros les articles de presse liés aux accidents graves qu'il a pu recenser dans les différents articles de presse. Alors j'avais d'autres questions, en particulier sur la définition de l'accident au Portugal. La définition de l'accident est relativement partagée à un niveau international, donc considéré comme un accident, ce qui a été répété tout à l'heure à travers les références à Rémy Lenoir. Donc l'accident survient à l'occasion du travail. Il est généralement considéré comme un événement soudain. Mais en revanche, sa prise en charge peut varier d'un pays à l'autre. En France, il y a une indemnisation forfaitaire depuis le début du XXe siècle, prise en charge par la sécurité sociale, et on y a adjoint la question de la responsabilité de l'entrepreneur en cas de faute prouvée, disons, depuis les années 40, mais plus ou moins mise en application depuis le début des années 2000, bien qu'il y ait de rares cas de procès qui soient présentés en France. En gros, en France, on a affaire à un système qui déresponsabilise l'employeur sur la question de l'accident. Je voudrais savoir donc du coup si c'est le cas au Portugal, parce que ça pose la question du coup de la responsabilité, dans la mesure où en France on s'interroge assez peu sur, du moins juridiquement, sur le responsable de l'accident. Il n'y a pas besoin de déterminer qui est responsable d'un accident pour prendre en charge les frais associés aux problèmes qu'il a pu occasionner. En revanche, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'interrogation sur la responsabilité, notamment dans la presse, de fait, mais aussi dans les collectifs de travail au quotidien et dans les relations entre organisations patronales et syndicales dans les unités de production, notamment dans les CHSCT en France. Et là, il y a de longs débats depuis au moins un siècle et notamment des théories gestionnaires qui visent à déterminer si, en gros, c'est l'organisation et donc l'employeur qui est responsable des accidents ou si ce sont au contraire les comportements des travailleurs qui entraînent des accidents. Ça fait l'objet de théories qui ont été implantées dans différents pays. Alors, je me suis demandé, parce que finalement, ces théories-là, elles semblent ici portées par l'inspection du travail, dans ce cadre-là, et moins par le patronat. Du coup, je me suis demandé si ça renvoyait à la constitution particulière du patronat du bâtiment au Portugal, c'est-à-dire un patronat de petites entreprises qui ne disposent pas nécessairement de services spécialisés sur les questions de sécurité, comme on peut les retrouver dans de grandes entreprises de métallurgie, par exemple. Ou si ça renvoie plus généralement à un discours tenu par les différentes associations patronales au Portugal sur les accidents du travail. J'imagine que ces associations patronales suivent des séminaires sur ces questions-là. C'est un problème important pour eux et ça renvoie aussi, j'ai oublié de le signaler tout à l'heure, en gros, est-ce que les accidents pèsent sur les budgets des employeurs ou non ? Le système, par exemple, assurantiel en Belgique fait peser une partie du prix des accidents sur les employeurs, donc ils y sont particulièrement attentifs aussi pour des raisons économiques. Voilà, je vais m'en tenir là sur les accidents, on pourra en rediscuter après. J'en reviens à la deuxième présentation de Virgilio. Donc je trouvais aussi particulièrement intéressant cette enquête. Ici, on voit bien que tu nous présentes comme un petit aspect de cette enquête très très large. Donc je ne vais pas revenir sur la présentation plus générale de l'évolution du contexte, qui est très impressionnante par les mouvements qu'elle peut entraîner au travers des crises à répétition. Je vais revenir sur cette question de l'émigration de ces ouvriers pendulaires. Alors je l'ai trouvé vraiment particulièrement intéressante ici dans le chapitre de l'ouvrage. Donc vous exprimez comment c'est développé cette émigration d'abord dans l'Espagne, et puis on peut voir le mouvement suivant à la fois en Belgique, à Bordeaux, mais aussi en Islande, en Allemagne, en Suisse, etc. Bon, tout ça fait l'objet d'une stratégie très, très diversifiée. Évidemment, ça pose la question de comment saisir du coup les positions sociales dans ces deux espaces. On sait que c'est une question assez centrale dans la sociologie des migrations, mais ici, les parcours sont tellement heurtés et tellement reliés qu'on se demande du coup, qu'on s'interroge sur comment essayer d'exprimer au-delà des cas individuels des trajectoires saisies dans, disons, des régularités qui permettraient de les relier ensemble. En particulier, j'ai trouvé ça très intéressant de relier également l'entre-deux, ces moments de trajet, qui sont parfois très nombreux et récurrents. Certains reviennent, notamment même ceux qui résident en France, reviennent parfois toutes les semaines, tous les week-ends. Pour d'autres, c'est tous les 15 jours. Pour d'autres, c'est tous les mois. Et donc, du coup, et vous soulignez bien aussi les différentes manières de s'inscrire dans le territoire où ils arrivent, c'est-à-dire parfois dans des logements collectifs, ou du moins de grande proximité, parfois dans d'autres logements plus stables dans le pays d'arrivée. Excuse-moi, je... Du coup, on peut s'interroger sur comment peut-on saisir ces positions, notamment au travers des ménages. Puisque hier, nous avons eu cette discussion dans nos échanges. Un des grands intérêts pour nous de ce dialogue, il me semble, c'est que vous travaillez la question des ménages davantage qu'on ne l'a fait au travers de la statistique publique, même si c'est en train de se faire en France, où l'on raisonne sur le ménage à partir de la personne de référence, c'est-à-dire l'homme. Et là, vous travaillez davantage la question de comment saisir un ménage à travers notamment de l'homme et la femme dans un pays qui est marqué par un fort taux d'activité féminin. Du coup, ici, on a affaire à de drôles de ménages, finalement, qui questionnent même la notion de ménage, à la mesure où ils ne résident pas nécessairement ensemble, ou du moins sur de très courtes périodes. Et du coup, je voulais vous demander comment vous arriviez à gérer cette question du positionnement social. Et me demander, puisque vous avez fait un très grand nombre d'enquêtes, donc on a l'impression que vous n'avez rien laissé de côté. Et donc, du coup, est-ce que vous avez pu interroger ces femmes qui restent au pays? Ça pourrait être assez intéressant de saisir comment elles s'inscrivent également dans cette configuration, à la fois en termes de gestion contrainte de l'espace domestique, mais aussi dans certaines formes d'autonomie, dans la mesure où, disons, le dominant de la relation de genre n'est pas très, très présent. Alors j'étais très, très intéressé aussi, je vois qu'il y a une grande prudence dans cet élargissement de la notion du capital d'autochtonie, tel que tu l'as signalé encore dans ta conclusion et qui apparaît dans le texte, puisque généralement on l'utilise, au moins dans la tradition française, sur un espace relativement serré d'interconnaissance répétée, ou du moins de rapports répétés dans des formes d'interconnaissance limitées. Et ici vous le développez à un niveau plus large, à la fois sur un espace international, mais qui couvre aussi différents espaces sociaux, pas nécessairement interconnectés entre eux. Donc voilà, si vous pouvez développer un petit peu cette idée qui permet peut-être d'élargir la notion de réseau, peut-être un peu plus flou que celle de capital d'autochtonie. Il me reste encore 2 minutes. Oui. Enfin, sur... je regarde ce que... Oui, ok. Une dernière question sur... en pensant à un travail réalisé par Stéphane Latté et Simon Apfel dans un des derniers numéros de Politics, ils travaillent sur ces ouvriers frontaliers, donc qui résident en France et qui travaillent en Suisse, qui occupent des positions subalternes en Suisse. Pardon ? Non, c'est en Suisse. Ouais, c'est Jean-Luc Dessay au Luxembourg. Positions subalternes. Mais à salaire élevé, Et donc, il souligne bien que ces travailleurs, quand ils reviennent, quand ils sont dans leur espace local, disons, d'habitation, défendent une vision relativement conservatrice de la société, valorisant l'investissement au travail, la hiérarchie du travail, valorisant aussi les nouvelles formes de management, de licenciement, même quand ça les concerne directement eux-mêmes, etc. Et pourtant, un discours anti-syndical, bon, etc. Et donc, je voulais savoir aussi si vous aviez des informations sur ces manières de se représenter le monde de ces travailleurs pendulaires, quoi, en gros. Quoi. Et enfin, dernière petite question, j'en reviens au premier, enfin, pas au premier exposé, mais disons, à partir de la lecture du premier exposé, du coup, ces travailleurs qui ont été certainement soumis à des accidents, notamment parce qu'ils ont dû travailler dans des contextes nationaux différents, où les travailleurs ne parlent pas nécessairement la même langue, c'est plus difficile de se comprendre. Parfois avec des règles d'encadrement du travail différentes. On peut imaginer qu'ils ont subi des dégradations et des accidents corporels plusieurs fois dans leur vie. Est-ce qu'ils vous en parlent? Est-ce qu'on parvenait à les intégrer dans les récits de trajectoire de vie?
Merci. J'ai une question très simple. Quels sont les rapports entre les travailleurs que vous avez étudiés, notamment à Bordeaux, et les travailleurs portugais qui sont installés depuis bien plus longtemps, qui ont parfois leurs propres entreprises, leurs petites... Est-ce que c'est il y a une situation de concurrence, situation de solidarité basée sur soit une origine nationale, mais aussi peut-être une origine locale commune? Et est-ce que ces personnes-là, quand ils cherchent des grues en France, est-ce que ils cherchent des Portugais, des entreprises portugaises, ils privilégient ça ou pour eux ça n'a pas vraiment d'incidence dans leur quête? Et une question pour Bruno, et c'est sur les articles. On a l'impression que dans les articles de presse, ça parle de la vision des syndicats, la vision du patronat, la vision de l'inspection du travail, et où est-ce qu'il y a la parole des propres travailleurs? Mais elle n'est jamais présente? Ou est-ce qu'il y a certains journalistes, notamment ce que vous avez dans votre corpus, il y a o Avent, donc qui est l'Humanité au Portugal, et d'autres journaux comme Journal Noticias, je comprends. Est-ce qu'il y a une différence entre journaux? Merci.
On a posé une question toute simple. Est-ce que les articles se trouvent dans une rubrique faits divers ou société, par exemple? Ça change radicalement la manière dont on lit le journal, quoi. Ça oriente les choses.
J'ai une question qui concerne les deux communications. Les deux font commencer leur objet dans les années 90, autour de 96, en tout cas pour le premier, le deuxième, je ne me souviens plus, mais c'est aussi les années 90. Et je m'interrogeais sur le choix de cette borne chronologique, parce qu'a priori, en quoi c'est pertinent par rapport au sujet que vous étudiez. Après, c'est plutôt des questions pour les travailleurs de la construction qui viennent en France. J'ai une question qui est un peu similaire à celle de Cédric sur les épouses, mais qui porte aussi sur les épouses, mais pas exactement la même question. C'est par rapport aux propos donc qui sont recueillis auprès des hommes sur le fait, sur ce que représente le fait d'être en France pour eux, le fait que c'est qu'ils y font leur vie ou pas, que c'est que le travail ou pas. Est-ce que ça vaudrait pas le coup d'interroger les épouses quand il y en a, enfin les conjointes quand il y en a sur cette question-là, pour voir dans quelle mesure c'est pas forcément, pour compléter, disons, les éléments d'explication par rapport à cette façon d'être présent dans l'émigration. Et la deuxième question sur cet objet-là, c'est est-ce que vous avez des éléments d'explication de la migration? Parce qu'en tout cas, la logique d'écriture du papier, de présenter des portraits, c'était un peu des récits pas héroïques, mais c'était la logique d'écriture, hein, de la parole des enquêtés qui disent, voilà, à 14 ans, je prends le bus, à 16 ans, je prends la voiture, etc. Et est-ce qu'il y a certaines caractéristiques, surtout en comparant, puisque l'un des grands intérêts de cette enquête, c'est que comme vous avez fait des enquêtes sur les régions d'où ils viennent, globalement. Donc, est-ce que vous avez pu comparer avec les personnes qui ont grosso modo la même appartenance socio-professionnelle pour essayer de voir dans quelle mesure il y a des éléments qui distinguent ces hommes qui se lancent comme ça dans l'aventure de l'émigration, de la conquête du monde, enfin bref, par rapport aux hommes qui sont potentiellement leurs voisins dans le même village?
Merci. Donc, moi, c'est pas une question, c'est juste pour... inciter Virgilio dans la discussion, dans les réponses, à raconter un peu comment s'est mis en place ce dispositif d'enquête entre la Vallée de l'Abe et Bordeaux, parce qu'en soi, c'est très intéressant et révélateur de comment. Donc, vous avez fait l'enquête à plusieurs, certains au Portugal, certaines en France, mais là, il y a un lien très intéressant entre les deux terrains.
Bonjour. Je voudrais rajouter encore une question sur la question sur les accidents du travail. Est-ce que ces discours différencient les travailleurs, en fait ? Est-ce qu'il peut y avoir des discours différents en fonction de qui a été mis en cause ? Déjà, est-ce que c'est toujours les travailleurs qui ont l'accident qui sont mis en cause, ou est-ce que parfois on met en cause des personnes qui sont à côté ? Et est-ce que, en fonction du type de travailleur, il peut y avoir des différences ? Je pense à ça parce que j'avais travaillé sur des discours autour des accidents dans une usine, et les discours n'étaient pas les mêmes si c'était des ouvriers ou des techniciens. Et c'était plutôt des ouvriers dont on parlait, par exemple par rapport à l'alcool, tout ça. Voilà.
Les nouvelles sont d'une archive syndicale. Donc, si ce sont des nouvelles d'une archive syndicale, ou Alban Rodrigues, qui est le président de l'archive, président du syndicat des travailleurs du Nord, chaque fois qu'il parle, on a la nouvelle dans l'archive. Donc ça, c'est le point de repère. C'est le discours d'Alban Rodrigues. Donc, chaque fois qu'il parle, on a cette nouvelle à l'archive. Donc, c'est un discours, ça c'est pour comprendre pourquoi on a une archive spécifique. Les journaux sont régionaux, on a des journaux régionaux, et aussi nationaux comme Express et d'autres journaux. Et ainsi aussi les journaux du nord de Portugal. Journal de notícias, Comércio do Porto. Donc, cette situation qui c'est locale. Les nouvelles sont dans la partie de la société et aussi locale, Viseo. Trois travailleurs Viseu, qui sont. Viseu, c'est une région portuaire. Les nouvelles sont comme ça. Donc, à Viseu, trois morts. Par exemple, je n'ai pas eu le temps de lire. Ce sont des exemples toujours comme ça. Viseu. Hier, le jour ne pouvait pas être plus marchandeux dans le département de Viseu. En matière d'accidents de travail, aux petites heures du matin, à Silgueiros, c'est un lieu, 5 ouvriers de la construction ont vu la plaque de la maison qu'ils construisaient tomber sur eux. À la fin d'après-midi, presque au même moment, un jeune homme a été électrocuté au barrage de Varosa, à Lamego. Donc la région, c'est aussi... c'est répondre à la question... où on parle sur les accidents de travail. Parfois, on a aussi on a des nouvelles sur les statistiques, mais elles sont moins, comment ça se dit, fréquentes. Et c'est toujours Alban Ribeiro qui va parler des statistiques. Et aussi, on interroge l'autre, Rui Viana, qui est le président du patronat. Donc, c'est toujours comme ça. Les ouvriers, la voix des ouvriers, on a des indices de la voix des ouvriers à partir de ces agents-là. Mais on a un journal, c'est Avent, c'est un journal politique, on a la voix des ouvriers, mais ça c'est un peu, sont les ouvriers qui sont syndicalisés. Donc ça fait la différence. Les accidents, ce sont les accidents où il y a des morts. Dans cette archive syndicale. Donc, les accidentés sont ceux qui sont morts. Il y a une nouvelle à Viseu qui a parlé des blessés qui étaient à l'hôpital, mais c'est toujours la troisième personne, les morts. Donc, la question, ce sont des petits accidents, des grands accidents. Oui. ce sont des accidents avec des morts.
Nous avons mené une autre recherche avec l'Association nationale de blessés et de travail. Nous avons fait une enquête très représentative, très importante, et nous avons fait aussi des interviews, et nous avons compris que il y a tout le travail de détermination de la notion d'accident, c'est très long et c'est très conflictif. La notion d'accident, c'est un enjeu très fort, juridique et de point de vue médical, pour la détermination des causes. Et c'est pour ça que l'étude des représentations qui sont mobilisées pour caractériser les accidents sont tant importantes. Est-ce qu'il n'y a pas de détermination absolue pour dire ce qui est un accident de travail? Il y a bien sûr des lois, et ce sont des lois très exhaustives, mais tout le travail de détermination de la nature même d'un accident de travail reste une chose à décider. Et pour nous, cela nous a mené à consulter l'arène plus visible de ces argumentations-là, c'est précisément ces corpus de la presse. Cela a donné, je pense, quatre points qui pour nous sont importants. Le premier, c'est que toute l'argumentation sur la causalité, tout le schéma cognitif mobilisé pour interpréter l'accident, c'est simultanément fait collapser la division pour le raisonnement de la responsabilité, l'attribution d'une culpa. Cela, c'est très intéressant, parce que c'est seulement pas une discussion neutre de la cause, c'est aussi la détermination, l'imputation d'une responsabilité qui s'était étant discutée. Et cela, c'est intéressant, parce que cela va faire collapser précisément ces divisions-là entre schéma cognitif et schéma moral. C'est très, très, pour nous, c'est très intéressant de discuter cela. Un deuxième moment, il y a plusieurs lieux de voix, il y a plusieurs points de vue qui sont mobilisés. Ils sont, comme j'ai pour répéter une expression, c'est l'opportunité de voir ces pluralités de paroles, de points de vue, de système de porte-parole. Et ils ne sont pas les accidentés, les ouvriers qui parlent plusieurs fois parce qu'ils sont morts, c'est tout. Et parfois parce qu'ils sont silencieux. Et parfois, il y a des témoignages de qui parlent, mais ils ne sont pas exactement mobilisables comme auteurs légitimes d'une représentation. Et cela, c'est aussi pour nous vraiment important. Et seulement pour terminer, il n'y a pas une définition naturelle. Cela, c'est un truisme, mais quand même, il n'y a pas de définition naturelle et univoque d'accident de travail. Cela reste quelque chose à disputer. Et c'était un espace très intéressant de voir une opération, la violence symbolique. La manière comme nous essayons de changer le monde, par exemple la causalité, changeant la représentation de ces mondes-là. Et c'est pour ça que nous sommes intéressés à discuter de ces accidents mortels.
Marc, est-ce que dans le fil de ce que vous avez fait, vous ne pouvez pas assister à des débats devant le tribunal? Parce que nous, à Montbéliard, on a fait... Bon, je suis des processus comparables aux vôtres, mais il y a des séances de tribunaux qui sont ouvertes. Et c'est assez intéressant, cette initiative dans ce cadre.
Est-ce que je peux ajouter une chose à ce propos? À propos de ce que Michel a dit, c'est justement ce que j'allais dire. Aussi, j'allais demander la parole pour dire quelque chose à propos de ces remarques, des observations sur la question des accidents, seulement pour dire une chose. Une des membres de notre équipe, qui est présente aussi dans cette intervention, Vanessa Rodrigues, elle va précisément étudier dans sa thèse de doctorat, ça va s'autonomiser à partir de là, le rapport aux institutions de ceux qui sont victimes d'accidents de travail, et en particulier, après, il y a une très forte articulation avec cette étude que Bruno a décrite sur la question des accidents de travail, qui va être lié aussi au fonctionnement des tribunaux, précisément. C'est une des choses qu'on n'a pas autonomisées déjà, mais qui va sortir, c'est un des résultats qui va sortir pour l'avenir, c'est d'étudier. On a beaucoup travaillé dans cette recherche avec les inspecteurs du travail, qui ont beaucoup collaboré avec nous, et beaucoup des décisions qu'on a prises ont été... On avait un inspecteur du travail très, très influent. Bon, il est déjà à la retraite, mais quelqu'un qui connaît très bien...
Ils sont plus intéressants, ceux qui sont à la retraite.
Oui, c'est ça. Il est très, très, très libre. Et donc, il a été avec nous depuis le début. Il s'appelle Fraga d'Oliver. C'est quelqu'un qui écrit dans les journaux depuis longtemps portugais pour discuter ces questions-là. Et donc, il nous a beaucoup conseillé aussi à ce niveau-là. Donc, il y a vraiment des enjeux juridiques, techniques, assez compliqués. Mais une chose, on sait... à la suite de l'étude, c'est que les victimes d'accidents de travail les plus démunies en capital culturel sont aussi ceux qui sont plus exposés à un rapport difficile aux institutions. On a réussi à déterminer ça, et donc ça, c'est un acquis important quand on discute. Et donc, pas de voix dans la presse, mais aussi pas de voix devant les institutions. Donc c'est vraiment un enjeu important pour
Oui, ils sont doublement dominés.
Oui.
Non seulement parce qu'ils sont plus exposés à des accidents, mais aussi parce qu'ils sont privés de l'accès à l'espace public, mais aussi ils sont très démunis dans l'accès à la distribution.
Oui. Mais de toute façon, il faut souligner à ce propos que les inspecteurs du travail portugais, même les responsables français disaient ça à propos de leurs collègues portugais. Ils disaient au Portugal, il y a un fonctionnement intégré de l'inspection du travail, et ça, par rapport par exemple à la France, c'est un avantage parce que les inspecteurs du travail ils sont capables d'avoir une approche un peu plus intégrée de cet encadrement. Mais de toute façon, il y a bien sûr des problèmes. Mais de toute façon, on a, oui, beaucoup pensé à ça, et on va autonomiser une nouvelle recherche à partir de là. Oui. Bon, je passais pour les questions. Bon, toutes les questions sont vraiment intéressantes. Je vais essayer de répondre à certaines. Bon, la question du... Bon, la question du il y a bien sûr des régularités dans la production des positions sociales de ces agents. Il y a quand même des différences importantes, il faut souligner, entre ceux qui bon, pas forcément, mais de toute façon, il y a des différences significatives entre ceux qui sont restés et ceux qui ont un parcours... migratoire. Donc, même dans le cadre de ce genre de migration, il y a plusieurs distinctions à faire. Je ne peux pas y aller, mais de toute façon, mais normalement, ces trajets, ils ont bien sûr des conséquences dans la définition de la position du ménage. Et une chose vraiment importante pour commencer, c'est vraiment la question de la famille reste au Portugal ou elle part avec le mari. Donc, il y en a beaucoup qui partent ensemble, mais il y en a aussi un ensemble significatif d'interviewés, au moins, et on s'aperçoit de ça dans le terrain, ceux qui font ça, qui ont cette division familiale. Bon, le projet, il est toujours vraiment associé. Bon, ça, du point de vue théorique, il est normalement associé à un projet de promotion sociale et économique de l'individu, mais aussi de la famille. Donc, c'est normalement au centre du projet. Donc, mais bien sûr, il y a des divisions. Et il y a surtout un processus d'adaptation à cette... il y a une expérience qui peut
introduire des problèmes. Ni tous ces hommes-là vont vivre le processus de la même façon. Et cela donne origine à des styles de vie. Ils sont des ouvriers, des contremaîtres, des chefs de chantier, etc. Mais il y a des divisions de styles de vie parfois significatives en matière d'expérience quotidienne, mais aussi en matière de projet. Qu'est-ce que je veux faire avec ce processus-là? Quel est mon but? Je veux m'arrêter à quel âge? Est-ce que je vais faire ça pendant le reste de ma vie active ou non? Est-ce que je vais construire, faire bâtir une maison ou acheter une voiture, etc. Donc l'éducation des enfants. Et mes enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire s'ils sont, par exemple, des garçons? Est-ce qu'ils vont continuer dans l'industrie du bâtiment ou est-ce que je veux qu'ils fassent des études en théorie, ils diraient ça, mais il y a qu'ils aimeraient en investissement scolaire, mais dans la pratique, ça. Mais ce genre de questions, c'est vraiment un enjeu intéressant et qui de ce qu'on peut vérifier, il faut toujours faire la sociologie de l'individu et c'est pour cela que j'ai présenté les extraits. Donc le défi, je pense, c'est intéressant de faire cet exercice à partir de la sociologie de l'expérience migratoire et du travail dans la construction à ce niveau-là. Mais quand même, de ce qu'on peut vérifier déjà, c'est vraiment qu'il y a des différences importantes entre ces ouvriers. Ils ont peut-être les mêmes, parfois les mêmes. Le travail dans l'industrie du bâtiment au Portugal et, par exemple, le travail dans l'industrie en France, il n'a pas exactement les mêmes caractéristiques du point de vue technique. Tout le monde dit qu'au Portugal, c'est bien plus difficile de travailler. Il y a un côté physique plus dur qu'en France. Et cela est aussi à l'origine de stratégies de distinction qui sont très importantes, qui passent par le travail dans le chantier. Donc, c'est une chose que je trouve vraiment en exercice. On parle toujours de ça, c'est essayer de faire la sociologie du chantier. Donc, mais le chantier, il est un local de tension, d'une tension permanente. Donc, on pense qu'une chose importante, c'est une tension où certains de ces Portugais qu'on a interviewés, où ils s'affirment, mais c'est une tension qui assure une sélection sociale permanente liée à la capacité technique et physique. Nicolas Jonas le décrit aussi très bien, et on a trouvé le même genre d'approche. Et il faut surtout ne pas oublier une chose, il y a beaucoup d'ouvriers qui n'arrivent pas à s'affirmer dans les chantiers. Donc, il faut avoir la notion que quand on parle de ces agents efficients, on parle d'un ensemble d'agents qui s'imposent à partir d'un ensemble de capacités qui après sont reconnues dans des structures de pouvoir. Mais le chantier, il n'est pas homogène. Il y a des hiérarchies importantes. Et ce qu'on peut voir en beaucoup de cas d'agents qu'on a interviewés, bon, il y a des agents qui s'affirment, et il y a bien sûr des autres qui ont des problèmes. Il y en a beaucoup qui ont des expériences ratées, donc qui n'arrivent pas à s'affirmer, donc, et qui n'arrivent pas à survivre dans ce genre de logique entre ici et là-bas. Donc maintenant c'est plutôt là-haut, donc dans la géographie. Bon, cela, bon, c'est une question importante à propos de la question. La position sociale des maris a un rapport avec celle des femmes.
il faut après voir, si, par exemple, dans la trajectoire de ces ouvriers, si la femme travaille ou ne travaille pas. On essaye de voir ça, de vérifier ça. Par exemple, tout cela sont des questions importantes. La question de l'autochtonie. Bon, oui, pour nous, c'est vraiment un défi analytique intéressant. Une chose qui, pour nous, il nous semble que, outre les questions techniques, il y a aussi une question centrale dans toute cette question-là. C'est une question de confiance. On a tout central dans le fonctionnement du chantier et du réseau de chantier. C'est la question. C'est pour cela que j'ai raconté l'histoire de cet homme-là qui traverse l'Espagne, qui va chercher la construction sociale d'une confiance. Et une chose vraiment importante, c'est la confiance et aussi les références. Les références qu'on donne d'autres. Et donc, à partir une chose importante, c'est dans les premières heures d'arrivée de quelqu'un nouveau dans un chantier, il commence à être évalué par les collègues, par les chefs. Et donc il y a tout un travail de monitorisation de la performance. Et ce qu'on pense, c'est que on sait très bien que l'autochtonie, elle est très liée à la production elle est très liée à l'espace. Mais ce qu'on trouve ici, c'est vraiment comment à partir d'une référence commune liée à la capacité de travail et au partage d'une situation sociale, d'une langue commune, donc, on voit s'établir en nouveau nous, donc c'est en nous qui structure à partir du partage de cette confiance dans la capacité de l'autre ou la méfiance, parce qu'il y en a beaucoup. La question d'être ou non trompé par quelqu'un qui nous embauche, mais aussi être trompé par la confiance qu'on a dans l'autre qui travaille avec nous. Donc, il s'agit vraiment d'un capital de reconnaissance qui est construit parfois. Il a un côté pratique, spatial, bien sûr, mais aussi il a un côté lié à des trajectoires qui peuvent être lointaines parfois, mais de toute façon, on sait où certains en tel travail, ou est-ce qu'il peut donner des références. Bon, c'est la construction dans nous, dans notre nous, donc, mais il s'agit de quelque chose que nous trouvons qui est intéressant.
Pour la conceptualisation de ces questions-là, la référence à Sayad reste,
oui, bien sûr,
une centrale, chose, oui, essentielle, parce qu'il a fait ce que vous faites, et puis ils ne sont pas très nombreux à avoir fait ça.
Oui.
Regardez le terrain de l'immigration et celui de l'immigration, oui, menée, une chose qui répète, il faut connaître les deux, oui, terrains à la fois, et vous êtes vraiment en situation de faire ça formidablement.
Oui. Oui, on essaye. Bon, Sayad, il joue un rôle vraiment important pour nous aussi, bien sûr. Et cela a un rapport avec la question que Françoise aussi posait à propos la question du rapport entre différentes générations de migrants. Oui. C'est Victor qui parlait de ça, donc oui, ok. Donc, mais je voulais pas oublier, oui, c'est ça. Mais je pense que c'est une fois plus quelque chose qui est mesuré sur place. Donc le rapport, bien sûr, les anciennes générations plus installées, elles ont un capital important et elles jouent comme référence. Mais une fois plus, je pense que l'intégration ou la désintégration, parce qu'elle arrive, elle passe beaucoup par cette sélection de compétences qu'on évalue sur le chantier. Est-ce qu'on est capable ou non de répondre aux demandes qu'on nous fait sur place? Donc ça, je pense que c'est une question importante. Et donc, on a des affinités et on peut avoir des distances, mais des divisions même, qui passent beaucoup par cette évaluation de la performance. Jonan,
c'est quasiment une sélection naturelle.
C'est une sélection sociale, parce qu'on pourrait faire les choses d'une autre façon, mais ce côté sélectif, il est assez présent. Et c'est parfois, on écoute beaucoup des situations d'épuisement physique et même psychologique qui sont liées à cette tension permanente pour certains de nos interviewés, les chantiers peuvent avoir. Mais de toute façon, oui, je vais seulement dire une chose à propos de la question de Françoise. J'étais préoccupé avec ça. La chronologie, elle a un rapport avec nos travaux aussi. J'ai pas tout présenté, mais on a Madre Pinto, à la fin de la première recherche sur Fontercade aux années 90, c'était mon premier travail sociologique professionnel avec lui. Il a fait une recherche sur l'industrie du bâtiment au Portugal. Il a dirigé cette recherche. Une thèse de doctorat a été publiée à ce propos par Maria Cidade Quiroz. Et ils avaient reconstitué toute la chronologie du secteur des années 70 jusqu'aux années 90. Récupéré ça et on a reconstitué la chronologie. Mais il faut aussi ajouter une chose. Il y a eu, à la fin des années 90, comme je disais, il y a eu une augmentation significative et au début des années 2000, très liée à la question de la construction des stades de football, des ouvrages, Expo 98 ou l'Expo, etc. Tout un ensemble de travaux et d'ouvrages pour travaux publics qui ont beaucoup augmenté l'importance du secteur et après une crise. Mais la raison de la chronologie, c'est qu'on peut récupérer le passé, mais on a et bien sûr la division, la question du rapport homme-femme. On n'a pas beaucoup interviewé des femmes, mais de toute façon on a des très bonnes interviews sur le rapport à la famille de ces hommes-là. Et donc, et comment ça se passe, la question de l'absence, donc à laquelle Sayad était. Quels sont les enjeux sur la famille liés à une absence? Bon, par exemple, quand on a commencé le projet, il était évident que dans les régions de la vallée de Sauze, cela me permet aussi de parler de la question dont Yasmine a fait, il y avait un manque d'hommes dans les villages. Donc, les hommes sortaient pour Espagne, etc. Mais il y avait on parlait de l'absence du père dans la famille. Donc, bien sûr, il y a des communications à distance, mais comment se reformule les rapports à la famille dans ce cadre. Donc, cela a été objet. Il y avait déjà des études sur cette question liée à la migration et pas seulement à la migration dans la sociologie et la psychologie portugaise. Mais de toute façon, c'est une question qui est présente dans notre travail et on va sûrement écrire sur cette question après. Et bon, les deux terrains, ils sont liés parce que on a eu besoin de faire, à partir d'un certain moment, on a commencé à constater que il y avait, bon, à commencer par les cafés où les affiches parlaient du besoin d'hommes pour travailler à l'industrie en Espagne, mais rapidement on a commencé à voir à Fontercade et dans d'autres endroits que la vallée de Sousa, elle était complètement mise sur des réseaux de circulation internationale. On a demandé des maçons pour la Suisse, pour la France. Les institutrices de l'école primaire nous disaient « Bon, cette année, on va perdre des familles parce qu'elles vont partir. C'est là, elles vont accompagner leur mari en Suisse. Et donc, tout ce genre de questions se posent, et donc il y a une... tout cela nous a été confirmé aussi par les inspecteurs du travail de cette région-là qui font de l'inspection dans la région, mais qui ont aussi des travaux internationaux avec les inspecteurs français, les inspecteurs belges ou hollandais, où cette présence est significative. Et donc, on a eu besoin de faire ce double jeu d'analyse, donc bien sûr inspiré par Sayad, bien sûr, et par son exemple. Bon.
Merci beaucoup.